Rendez-vous, citoyens! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien.
FPP 106.3 FM, rendez-vous citoyens. Une émission qui s'intéresse à tout un chacun, individu, collectif, association, engagé dans les enjeux de transformation sociale. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, rediffusion, troisième mardi, 10h-11h et en podcast. Aujourd'hui, nous avons intitulé notre émission « Nos ancêtres les migrants ». Il s'agit là du titre d'un spectacle, ou plutôt d'une conférence gesticulée de la compagnie des Petits Ruisseaux et du collectif Daja, mise en place par Gérard Noiriel, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et Martine Derrier, comédienne et productrice, qui en a assuré la mise en place. Gérard Noiriel, bonjour.
Bonjour.
Martine Derrier, bonjour.
Bonjour.
Puisque tous les deux sont là, à nos côtés. Alors, avant de vous poser quelques petites questions, j'indique que cette conférence gesticulée, je l'ai vue le 25 janvier dernier au centre de la Tour des Dames, la Nouvelle Athènes dans le 9e. Cette conférence s'appuie sur votre dernier livre, sur ton dernier livre, Gérard, sorti en 2018, ouvrage qui fait la somme de nombreuses années de recherche et d'études, si j'ai bien compris, et intitulé « Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours ». Alors, petite question pour vous deux, pour commencer. Une conférence gesticulée, c'est quoi, Martine?
Alors, une conférence gesticulée, c'est une conférence qui fait intervenir le public. Gérard parle donc du sujet là, en l'occurrence de l'immigration. Mais il n'est pas complètement conférencier. Et il y a aussi moi qui interviens.
En tant qu'actrice.
Un
personnage, un Dagobert, un certain Dagobert.
Aussi. Enfin, tout ça, vous allez pouvoir le voir le 16 mars prochain à 18h, toujours au même endroit, là, à la Tour des Dames. Et donc, c'est une conférence où l'on ne parle pas, que l'historien ne parle pas toujours assis à une table. Voilà, il joue son rôle d'historien, mais voilà, il est amené.
Guitare, à un moment donné.
Voilà, il est amené à gesticuler.
Trois,
voilà.
Petits accords.
Voilà, juste pour montrer que je sais tenir une guitare.
Je m'essaye quand même.
Voilà.
Il y a des petites interventions aussi de photos, de projections.
Oui,
il y a
de la musique.
Des graphismes, des graphes plutôt.
Oui, des graphiques qui viennent de mes travaux, effectivement.
Voilà, il y a de la musique, il y a des chansons, vous chantez.
Oui, on invite le public à chanter. Également.
Donc ça, cette démarche de mélanger les sciences sociales et le spectacle, c'est la démarche de Daja,
oui.
De ce collectif. Donc, c'est pas la première expérience que vous faites. Elle a commencé, je crois, avec Chocolat.
Oui.
C'est ça, hein, Chocolat, oui. Gérard, pardon.
Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'étais un des fondateurs de la Cité nationale d'histoire de l'immigration, qui est devenue le musée d'immigration, et on avait fait un petit groupe de préfiguration. À l'époque, c'était Jacques Toubon qui était un petit peu le maître d'œuvre, et avant que la Cité soit créée, Martine en avait fait partie, on avait fait un petit groupe pour justement voir comment on pouvait transposer donc, des connaissances historiques qui soient accessibles à des gens qui n'aiment pas l'école, qui lisent pas les bouquins, etc. C'est parti de là. Et puis, on a démissionné. Moi, j'ai démissionné du conseil scientifique avec 7 collègues quand Sarkozy...
cause du désaccord sur le ministère de l'identité nationale.
Ça nous semblait ahurissant, enfin, ce genre de choses. Donc, du coup, mais le travail qu'on avait fait au sein de ce petit comité, on s'est dit, on a bossé, on avait trouvé des pistes, on avait rassemblé des gens, des artistes, des chercheurs en sciences
sociales.
Dommage
d'abandonner tout ça.
Ben voilà, des militants associatifs aussi. Donc, on s'est dit, on va continuer. Et c'est comme ça qu'on a créé l'association Daja. Et le premier, effectivement, projet qu'on a eu, ça a été sur le clown Chocolat. C'est nous qui avons redécouvert cet artiste. Et après, il y a eu le film avec Omar Sy, etc. Mais au départ, c'est notre travail.
Et puis, il y a eu d'autres travaux. Hein. Là, j'ai un petit livre, par exemple, qui s'appelle « Contre les discriminations », où il y a aussi des différents types de conférences gesticulées.
C'est-à-dire, moi, je m'amuse aussi le soir, quand j'ai fini avec les gros pavés. j'écris des textes de théâtre. Et c'est ça qui me plaît. Donc, c'est des petites, sans prétention.
Ça, ça décontracte un peu.
Oui, et puis en même temps, c'est très intéressant du point de vue de l'écriture parce que c'est une écriture qui est en contact direct avec un public. Donc là, on ne peut pas se planter. Hein. Quand on écrit un bouquin, je dirais, bon, on peut se planter, mais ça n'a pas des effets directs. Il y a des médiations. Tandis que dans un spectacle comme ça, bon, le public, ou il rigole, ou il rigole pas. Si on voulait le faire rire et qu'il ne rit pas, on se dit, on a raté notre coup.
Il faut recommencer. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été, tout ça. Voilà. Et alors, outre cette question de l'immigration, qui est un des sujets, Gérard, que tu développes, et dont tes recherches sont... C'est un grand pan de tes recherches. Mmh. Ça a commencé avec un livre sur le creuset français,
Ça a commencé avant.
Même avant.
Oui, j'en profite pour dire, parce que, en fait, moi, j'ai été... Mon intérêt, je dirais, pour l'immigration... Au départ, moi, j'étais plutôt un spécialiste d'histoire ouvrière. D'ailleurs, j'y reviens avec ce livre.
Il y avait déjà, un ouvrage sur les ouvriers,
oui,
avant le creuset français.
Voilà. Et puis, avant l'ouvrage sur les ouvriers, ma thèse, elle portait sur ce qui s'appelle « Immigrés et prolétaires ». C'est sur Longwy, sur les ouvriers sidérurgistes et les mineurs de fer du bassin de Longwy. Parce que moi, j'étais prof dans un collège à l'époque et j'ai été associé à la grande lutte extraordinaire. Voilà.
T'es retrouvé sur les radios, sur une radio.
Et j'ai commencé, je dis souvent, parce que ça m'arrive de critiquer les journalistes, pas évidemment de votre station.
C'est bon, on accepte.
Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et souvent, je leur dis, bah, écoutez, moi, j'ai été journaliste avant d'être historien, parce que je faisais les émissions de radio à Lorraine Cœur d'Acier avec Marcel Tria.
Voilà, c'est ça. Voilà. Mmh. Alors, une radio militante, hein. Enfin, forcément.
Ah, c'était la radio de la CGT. C'était la radio de la CGT. À une époque où on n'avait pas le droit. C'était illégal. Hein. Les radios libres étaient illégales. Il y avait les CRS qui entouraient le truc.
Ah, oui,
et ils n'ont jamais réussi à investir la radio ni la brouiller parce qu'il y avait les gros bras de la CGT.
Ah, oui, ça aide.
À l'époque, les sidérurgistes, les CRS, ils n'allaient pas s'y frotter. Hein.
D'accord. Alors... Je vais continuer à présenter. Je vais présenter l'émission, en fait, comment elle va se dérouler. Alors, cette fois-ci, si ton livre, Gérard, Une histoire populaire de la France de la guerre de 100 ans à nos jours, fait référence très régulièrement à la question des migrations, celle-ci ne constitue pas, bien entendu, l'unique objet du livre, puisqu'il s'agit bien d'une histoire populaire de la France au sein de laquelle, certes, les personnes, les mouvements de population et les migrations participent.
Oui, pour moi, la question des migrations, c'est une dimension de l'histoire populaire.
Voilà.
De même, par exemple, l'histoire coloniale, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est une dimension de l'histoire populaire. C'est ça, c'est cet axe-là que j'ai voulu privilégier, parce que c'est un axe qui rassemble aussi les gens.
Hein. Tout à fait.
Donc c'est un enjeu majeur aujourd'hui de rappeler cette dimension-là.
Alors, comme ton ouvrage est vraiment volumineux, hein, il fait, avec les index, ça fait 700-800 pages, j'ai quand même bien parcouru, et je vous propose en fait d'aborder une lecture de cet ouvrage à partir de trois directives. La première, c'est la question du processus de construction de l'État français au travers de l'histoire. Comment cet État français s'est construit jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième temps, ça serait de voir comment les mouvements, les révoltes, les évolutions sociales sont à mettre en parallèle avec les relations de pouvoir et d'interdépendance entre les groupes et classes sociales. Je pense que c'est vraiment l'axe, un axe très important de ton livre. Et enfin, autre point très intéressant du livre, qui parcourt aussi le livre, c'est de nous interroger sur tout un ensemble de concepts qui se sont forgés au cours des siècles et qui ont eux aussi été enjeux de rapports de force, de mouvements sociaux et de débats politiques, et qui continuent à l'être. Ces termes, ce sont par exemple les termes de peuple, nation, liberté, citoyenneté, démocratie, nationalité, voire racisme ou aujourd'hui diversité, par exemple. Mmh. Alors, je ne sais pas si on va arriver à aborder tous ces sujets, mais on va essayer, et dans ce parcours, on fera référence aussi à des éléments du spectacle sur cette question plus spécifique des migrations.
Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, 106.3,
rfpp.net.
Fréquence Paris Pluriel, la voix des sans-voix.
Alors, allons-y. Gérard, la construction de l'État français, c'est un long parcours. Avant même... qu'un État français existe. Tu vas nous en dire plus, tu le fais remonter à Jeanne d'Arc. Il y a déjà des tas de migrations sur ce territoire d'aujourd'hui qu'on appelle la France. Pour aller vite, évidemment, les hommes partent d'Afrique et se répandent sur la planète. Mais après, premier millénaire, les Celtes. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, des Celtes ? Ça revient dans le spectacle ?
Ah oui, c'est Martine. Au début du spectacle. Donc, on évoque déjà la question, à l'origine, les Homo sapiens, d'où ils viennent, d'Afrique.
Oui. On y reviendra un petit peu plus tard.
On est quelque part tous africains. Et ensuite, on évoque les Celtes. Alors, pour évoquer aussi la question de comment la langue, comment la civilisation s'est forgée, à travers aussi les apports culturels, on dit une phrase. Je vais dans un magasin pour acheter une jupe, une chemise en coton et un gilet. Oui. Et dans les 5 noms qui sont évoqués, il n'y en a qu'un qui est d'origine celte, c'est-à-dire gauloise.
C'est ça, parce que alors là, tu l'as dit, on y est, celte, gaulois. Voilà. Alors là, tu dis un élément aussi très intéressant, c'est Jules César qui nous a ramené l'idée de gaulois.
Voilà, je montre bien que tous ceux qui disent nos ancêtres les gaulois, par exemple, ils sont victimes du piège du langage, parce qu'il y a une continuité de la langue.
Tu parles du piège de la domination coloniale fixée dans le langage.
Voilà, parce que la domination coloniale, elle existe déjà à cette époque-là.
Les Romains.
Oui, c'est les Romains qui vont désigner les Celtes comme des gaulois. C'est pas eux, ils n'avaient pas de langue écrite.
Nommer le territoire aussi.
Oui, qui vont nommer le territoire, les régions, etc. Et ce que j'explique, c'est aussi que celui qui détient l'écriture dans l'histoire, il détient le pouvoir. Et ça s'est reproduit après avec la colonisation de l'Afrique, etc. Parce que c'est une manière de fixer, quasiment pour l'éternité, une représentation. Donc on le voit dès la construction début de la Gaule, on voit ces enjeux de pouvoir qui se réalisent.
C'est ça. Donc, les Celtes de l'Est, et puis après, il y a d'autres arrivées de l'Est, la chute de l'Empire romain, et donc les Visigoths, les Francs, les Burgonds, qui arrivent aussi sur ce territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, mais qui est loin à cette époque-là de constituer la France.
Ben oui, parce que là, on a, disons, on pourrait dire des tribus. Alors, après, il y a une manière...
D'ailleurs, on les nommait peuples.
Oui, on les nommait peuples, justement, mais c'est pour glorifier Clovis. Enfin, il y a tout un roman historique que certains véhiculent encore aujourd'hui.
Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le concept de peuple, on y reviendra d'aujourd'hui.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Moi, je pense qu'il faut dire tribu. Mm. Mais dans le vocabulaire, quand il y a eu la colonisation, pour dévaloriser les Africains, on a dit, c'était des... ils vivaient dans les tribus, mais nous, c'était des peuples. Vous voyez, il y a des enjeux du vocabulaire qui sont très importants. Ouais. Donc, c'est ce qu'on déconstruit aussi dans le spectacle en faisant jouer un personnage qui est un peu bébête là,
Dagobert.
Dagobert,
c'est une migration interne.
voilà, c'est ce que.
Oui, c'est ça. On
parce
a voulu
que tu arrives d'où, Dagobert.
La question des migrants internes à la France, des provinciaux qui viennent à Paris, sont souvent un peu considérés comme un peu
des étrangers,
voilà. Ouais. Donc moi je viens de Bresse. Je suis.
Parce que c'est autobiographique, on ne le dit pas dans le spectacle. En fait,
c'est vrai.
C'est pour ça qu'on parle. Effectivement de soi, dans une conférence gesticulée. C'est aussi
une
formule où l'on peut parler de soi. Et donc effectivement, c'est un petit clin d'œil. À toutes ces...
Mais alors ce Dagobert parcourt le spectacle. C'est celui qu'on interpelle à chaque fois, qui met sa moustache ou qui l'enlève. Avec sa moustache, c'est Dagobert. Sans moustache,
c'est Martine. C'est la comédienne.
Enfin, je fais même une différence entre moi et puis la comédienne. Avec différents chapeaux, différentes façons de jouer. Mais bon, Dagobert, c'est un personnage qui est imprégné de ce qu'il a pu entendre à l'école, dans les manuels scolaires, ce qu'il peut entendre maintenant sur BFM TV. Et il n'est pas complètement idiot, mais bon, il est naïf. Il a des préjugés, mais qui ne sont pas forcément dus à son niveau de QI. Quoi.
C'est... Alors, on ne sait pas si Dagobert était si naïf que ça, mais en tout cas, vous le prenez comme ça. C'est le VIe siècle, Dagobert.
Ah oui, Dagobert, oui, c'est les les Mérovingiens. Hein, ouais. On connaît la chanson, le bon roi Dagobert a mis sa culotte en l'envers. C'était une manière de le dévaloriser, mais on a très peu de récits de cette époque-là. C'est ce qu'on montre aussi dans le spectacle, quand on dit les barbares, les grandes invasions. Oui. C'est parce qu'on a quelques moines qui ont écrit des chroniques qui ont servi à fabriquer les premiers manuels d'histoire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres sources.
Encore, c'est un écrit qui a fixé les choses.
Voilà, c'est ça, c'est encore l'écriture. C'est pour ça que l'histoire a été renouvelée à l'époque contemporaine, quand on a eu des archéologues, par exemple, qui ont trouvé, donc ça a été une source tout à fait considérable pour montrer la diversité et la multiplicité des migrations dès cette époque-là. Mais beaucoup, on n'en avait jamais parlé parce qu'ils n'étaient pas dans les chroniques, parce qu'on ne parlait que des trucs violents, des guerres, etc., etc.
D'accord. Et là, on n'est même pas encore à ce qu'on appelle la féodalité.
Voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un État, il y a un embryon d'État mérovingien, carolingien, avec Charlemagne, mais ce sont des États qui sont extrêmement fragiles, parce qu'ils n'ont pas la bureaucratie, n'ont pas la force suffisante pour maintenir le pouvoir du roi.
Donc il y a des petits États, des petits seigneurs partout.
Voilà, qui finissent par complètement prendre s'émanciper, on pourrait dire, par rapport au pouvoir royal. Et c'est la féodalité. Oui. Donc là, on a quasiment des seigneurs qui sont maîtres sur leur territoire. Et donc, il va y avoir une lente reconstruction du pouvoir royal qui va se faire à partir de Paris, de l'Île-de-France. Au début, la France, le français, le francilien, c'est un dialecte. C'est le dialecte qu'on parle en Île-de-France. Et ces rois de France, qu'on appelle capétiens, parce que le premier c'est Hugues Capet, vont progressivement accumuler de la richesse, que c'est une région riche entre la Seine et la Loire, de la puissance, des mariages astucieux, etc. Petit à petit, donc l'État monarchique va se développer, notamment avec Philippe Auguste, on a déjà une bonne partie du royaume de France qui correspond à la France d'aujourd'hui, et puis il y a la guerre de Cent Ans, qui remet tout en question.
La guerre de Cent Ans, on va y arriver, Jeanne d'Arc. Mais sur ce temps de seigneur, la population, elle est en relation directe avec le seigneur, en fait.
Voilà.
Elle n'a peu à voir avec le roi.
Peu. Il y a un vague souvenir qu'il existe un roi, mais quelque part, c'est souvent d'ailleurs dans les églises, c'est l'église qui joue ce rôle mémoriel.
De légitimation du roi,
parce que c'est le roi qui s'en présenté comme de droit divin.
Oui. Suite à la conversion de Clovis avant Constantin.
Il y a une alliance qui est passée entre l'Église catholique, parce que quand l'Empire romain s'est écroulé, les seuls qui vont maintenir une continuité, c'est l'Église. C'est dans l'Église chrétienne que l'écriture, la culture écrite va se maintenir. Et donc, ça va être à partir de là que Clovis, il va comprendre qu'il fallait qu'il s'allie à l'Église pour pouvoir légitimer son pouvoir. Lui, il avait la force, les autres, ils avaient ce qu'on appelle le pouvoir culturel, le pouvoir symbolique, et c'est cette alliance-là qui va tisser, finalement, cet État qui deviendra l'État
français. Donc, entre les seigneurs et le peuple, c'est une allégeance. Ils ont droit de vie et de mort sur...
quasiment. Donc, les seigneurs les obligent à payer des impôts énormes.
L'impôt existe déjà, mais local.
Et religieux, il y a la dîme. Il faut payer aussi un impôt au curé. Et donc, il y a des révoltes, mais elles sont, évidemment, à l'époque, réprimées dans le sang. Il n'y a pas de quartier.
Parce que les révoltes partent souvent de la contestation de l'impôt,
C'est pour ça qu'il y a un petit clin d'œil aux gilets jaunes.
Ouais. Voilà. Tout à fait. Le clin d'œil aux gilets jaunes, parce que Dagobert, attends, c'est quoi son histoire? Il a une poule
Je suis originaire d'un petit village de Bresse où l'on élevait des poulets au maïs et qui leur donnait la peau jaune. Effectivement, moi, quand je suis arrivée au lycée, on m'appelait la ventre jaune. J'ai repris ça au masculin. Mais
ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que les humiliations, la stigmatisation, elle peut exister parfois d'un village à l'autre, des paysans pour les villes, etc. C'est pas une question uniquement de gens qui viennent de loin. Ça peut fonctionner.
C'était vraiment tout proche, puisque la Bresse et la Saône-et-Loire, c'est vraiment à côté. Il y a juste la Saône qui sépare.
D'accord, j'ai essayé de retrouver une phrase où tu parles justement des préjugés, en fait, que les préjugés, ils sont partagés par tout le monde.
Voilà.
Voilà, ce qui différencie, j'ai retenu, je n'ai pas retenu beaucoup du livre, mais bon, quelques-unes. Ce qui différencie les êtres humains, ce n'est pas le fait d'avoir ou non des préjugés, mais de pouvoir ou non les imposer aux autres.
Voilà, alors ça, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai long, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur l'histoire des migrations depuis 30 ans, donc c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Et je milite pour qu'on rétablisse la distinction entre préjugés et racisme. Tous les préjugés, on ne peut pas mettre une équivalence avec le racisme. Parce que sinon, on occulte la dimension du pouvoir. Et pour moi, c'est fondamental. Les préjugés, ça a été étudié par les anthropologues. Tout le monde a des préjugés. Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, quand il vivait avec les Nambikwara en Amazonie, il a montré que ces gens-là aussi avaient des préjugés. Et c'est la culture, c'est l'ouverture d'esprit qui nous permet de les échapper.